bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par
Renaud Broukis
et Martine Monti, avec à la réalisation Nancy Zottier. Donc ce soir, nous allons aborder le thème de l'économie sociale et solidaire face aux enjeux environnementaux. Lors de notre précédente émission, en novembre dernier, nous avons vu ce qu'est l'économie sociale et solidaire, les valeurs qu'elle porte en termes de justice sociale, d'éthique, de solidarité, de durabilité, les objectifs qu'elle se fixe avec notamment la primauté à l'emploi, la cohésion sociale, le développement des territoires, etc. Nous avons vu la façon dont elle fonctionne en termes de gouvernance, de répartition des bénéfices et des salaires. C'est une économie qui s'inscrit dans un cadre de développement durable de la société, souvent à rebours de l'économie marchande capitaliste qui privilégie davantage le profit et le consumérisme. Aujourd'hui, notre monde est confronté à une crise climatique et environnementale sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La surexploitation des ressources naturelles de la planète entraîne une dégradation de l'environnement avec une augmentation des températures et des phénomènes climatiques extrêmes tels que les inondations, les glissements de terrain, les canicules ou les tempêtes que nous connaissons depuis quelques années. À ceci s'ajoute une perte de la biodiversité qui met en péril l'existence même de l'être humain à la surface du globe. Face à cette crise, l'économie mondiale est confrontée à un certain nombre de défis. Défis des inégalités et de la pauvreté, de la montée des courants nationalistes, communautaristes et identitaires, défis de l'augmentation des tensions internationales et des conflits armés. Aussi, ce soir, en compagnie de notre invité, Albert Marouani, professeur émérite d'économie à l'Université Nice-Côte d'Azur et président de ETIS, la Haute École du Travail et de l'Intervention Sociale, nous allons voir quels sont les enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés et comment est-ce que l'économie sociale et solidaire peut apporter une réponse à ces défis qui nous sont posés. Mais auparavant, nous prenons le temps d'une pause musicale pour écouter IGAB, Je prendrai soin de toi.
Je prendrai soin de toi. Hey!
Bonsoir Albert Marouani. Donc
bonsoir.
Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau puisque vous aviez déjà participé à l'émission précédente sur l'économie sociale et solidaire. Mais pour ceux qui n'étaient pas, je vais vous laisser vous représenter. Donc vous êtes professeur émérite à l'université Nice-Côte d'Azur, directeur de l'école ETIS.
Non, pas directeur,
président
de l'association qui gère cette haute école du travail et de l'intervention sociale qui a été auparavant l'école d'assistante sociale.
Et donc, votre présentation, votre parcours, en bref, économiste?
Alors, j'ai un parcours d'économiste qui a commencé à travailler sur des questions de théorie économique pure, notamment la théorie de la valeur, la théorie des prix, le rôle de la monnaie, le rôle variables qui tiennent à la croissance, etc. Et puis progressivement, je me suis orienté sur l'économie du développement et je me suis intéressé davantage aux stratégies et aux politiques de développement qui ont été menées dans plusieurs pays du monde, notamment autour du bassin méditerranéen, mais aussi en Afrique subsaharienne, voire en Amérique latine et en Asie, avec des missions sur le terrain de courte, de moyenne et de longue durée. J'ai passé 2 ans au Burundi et ça a été à la fois un engagement sur des questions qui touchent des populations dans une situation économique et sociale et politique catastrophique. C'est l'aspect, disons, traduction de la connaissance au service de l'action, mais aussi la nécessité d'abord de mieux agir pour mieux comprendre.
D'où effectivement un très fort engagement dans le volet social de la société.
Voilà, c'est un engagement qui est venu plus tard, après ma présidence de l'université Nice-Sophia Antipolis. À l'époque, j'ai exercé dans cette université pendant plus de 40 ans, à la fois comme assistant, maître de conférence et professeur. Et j'ai également assumé quelques charges représentatives comme doyen et puis président de l'université de 2004 à 2012. Et c'est à la suite et à la fin de ma présidence, pendant ma période de retraite, que j'ai pris conscience et pris connaissance des enjeux que représentait la question de l'intervention sociale et de la nécessité de m'engager plus directement dans ce secteur pour en faire à la fois un secteur d'excellence, mais aussi pour développer des activités de recherche dans le domaine du social.
D'où effectivement une orientation vers l'économie sociale et solidaire. Vous nous en avez longuement parlé, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur sa définition. C'est un concept qui désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, fondations. Et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement, rappeler à nos auditeurs, quelles sont les valeurs de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire?
Alors, toutes ces valeurs auxquelles vous avez fait référence dans votre introduction, c'est-à-dire les valeurs de justice, de gouvernance, d'utilité sociale, de normes, de respect des normes environnementales, de respect de la nature à travers à la fois les circuits courts, l'économie circulaire, etc. Enfin, toutes ces valeurs se sont affirmées, je dirais, progressivement comme des valeurs centrales et importantes. Au début, l'économie sociale et solidaire jouait le rôle de secteur venant en quelque sorte combler les manques soit de l'économie de marché, soit de l'économie publique, c'est-à-dire les manques de l'État, et notamment son implication dans le secteur social, de la santé, etc., reflète un peu ce côté économie sociale et solidaire comme palliatif des insuffisances de l'économie, entre guillemets, normale, celle de l'économie marchande. En réalité, de plus en plus, l'économie sociale et solidaire s'affirme comme un secteur à part, avec ses propres modèles de gouvernance, et il faudrait simplement
pouvoir introduire davantage au sein de l'économie sociale et solidaire la question des innovations sociales, la question des réseaux internationaux, la question de l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle à la fois dans les modes de fonctionnement mais aussi dans les modes de financement, puisque la question financière est une question qui se pose aussi pour l'économie sociale et solidaire. Et il faudrait peut-être imaginer maintenant que l'économie sociale et solidaire puisse véritablement jouer le rôle de pouvoir être quelque chose d'alternatif, de post-économie marchande, notamment du fait des questions que nous allons évoquer maintenant, c'est-à-dire des questions liées à l'environnement et à tout ce que véhicule l'environnement sur les dimensions sociales et sur les dimensions géopolitiques.
Oui, parce qu'en partant de l'humain et du social, on arrive effectivement au contexte de la crise climatique et environnementale qui concerne tous les humains. J'aimerais effectivement faire avec vous un petit peu un constat global de ce qui est fait sur la surexploitation des ressources naturelles, l'augmentation des températures. Quel est votre constat par rapport à cette crise qu'on a un peu du mal à définir précisément?
Alors, je pense qu'il faudrait être extrêmement de mauvaise foi pour nier aujourd'hui l'évidence du réchauffement climatique.
Malheureusement, il y en a, des gens de mauvaise foi.
Je sais bien, mais je crois qu'il faudrait véritablement être tout à fait en dehors d'une démarche scientifique et objective pour nier des phénomènes que vous avez soulignés, c'est-à-dire l'augmentation des températures. On a des chiffres sur l'élévation sur la fonte des glaces, on a des chiffres sur l'élévation des températures, on a des records absolus qui ont été battus sur les sécheresses, etc., sur la pluviométrie, etc. Le nombre de phénomènes climatiques extrêmes explose, plus de 500% depuis 1970. La perte de la biodiversité, vous l'avez souligné, la surexploitation des ressources naturelles, etc. La question maintenant, c'est que on est déjà dans les conséquences de ce réchauffement.
Oui, c'est-à-dire qu'on part du climat et de l'évolution de notre planète liées à des activités humaines, mais les conséquences sont non seulement pour cette planète, mais pour les humains.
Exactement.
Donc effectivement, on arrive à des difficultés au niveau de l'agriculture, au niveau de la pauvrisation de certaines populations, et c'est cela que j'aimerais vous voir développer pour l'instant.
Alors voilà, je pense qu'on pourrait simplement faire la liste des effets, des conséquences économiques et sociales de ces caractéristiques que nous évoquions. D'abord, les coûts financiers énormes des phénomènes climatiques extrêmes, non seulement en termes de reconstruction, de pertes agricoles, de perturbations économiques. La Banque mondiale estime aujourd'hui que les effets du changement climatique pourraient coûter jusqu'à 216 milliards de dollars par an, pas dans le monde, dans les régions les plus vulnérables. Donc c'est des sommes énormes, c'est-à-dire dans les pays souvent pauvres de la planète.
Qui ne sont pas en mesure d'assumer justement
voilà,
ce genre de dépenses.
Notamment parce qu'ils sont fortement dépendants des ressources naturelles, comme l'agriculture, la pêche, et nos économies qui sont dépendantes des ressources comme l'industrie, etc., peuvent subir aussi les effets de ces aléas climatiques extrêmes, non seulement en termes de hausse des prix, mais en termes de volatilité des marchés, de crise économique, voire de pénurie alimentaire qui pourrait subvenir à la suite de ces aléas climatiques extrêmes. La dégradation environnementale coûte déjà énormément, et elles vont coûter de plus en plus. Les migrations économiques, qu'on appelle les migrations climatiques, mais pour des raisons aussi économique. Selon le rapport de la Banque mondiale, le rapport Groundswell, 216 millions de personnes pourraient être déplacées à l'intérieur de leur propre pays en raison du réchauffement climatique d'ici 2050. C'est des chiffres
énormes,
qui vont engendrer des coûts considérables.
Qui ne tiennent pas compte des émigrations, parce que le déplacement c'est au sein d'un même pays, mais il y a aussi ceux qui se déplacent vers d'autres pays, et ce sont les migrations.
Une partie de ces migrations internes vont se traduire en migration externe, et c'est un phénomène qui va s'ajouter à d'autres raisons de type géopolitique, etc., dans le contexte des problèmes migratoires que nous connaissons actuellement. Les inégalités économiques et sociales vont s'accentuer, ne fût-ce que parce que le réchauffement climatique aggrave les tensions sociales et renforce les disparités entre pays et au sein de chaque pays, selon que vous êtes en mesure de résister à ces aléas climatiques ou de ne pas résister. Si vous avez de la sécheresse, si vous avez des canicules, si vous avez des inondations, on sait souvent que dans certains cas, les personnes les plus fragiles résistent moins que les personnes qui ont la capacité de pouvoir se loger différemment, etc. Les tensions climatiques, les tensions politiques et géopolitiques vont avoir aussi des répercussions économiques parce que les désaccords entre les nations qui se manifestent aujourd'hui sur les quantités d'émissions de gaz à effet de serre qu'on pourrait imaginer ou les responsabilités sur les financements ou la capacité de faire des transferts de financement des pays riches vers les pays pauvres vont avoir des impacts économiques sur les relations entre les nations, y compris dans les relations nord-sud, qui sont en train de se tendre d'ailleurs.
Et d'autant que certains pays se désengagent effectivement de politiques de mise d'amélioration ou d'empêcher cette détérioration.
Absolument.
Et sur des pays influents comme les États-Unis, ça a
absolument
une sacrée incidence sur l'ensemble du monde.
Voilà, absolument. On a des pays qui sont les plus pollueurs de la planète et les plus responsables en termes de réchauffement climatique, qui ont une responsabilité mondiale, je dirais, sur des questions environnementales. Et ces pays ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et je dirais qu'aujourd'hui, les tensions géopolitiques à l'échelle planétaire ne facilite pas l'arrivée de solutions coopératives consensuelles. Et effectivement, on pourrait considérer, sans trop exagérer, que la transition est trop lente, manifestement. Il y a une transition trop lente, notamment parce que les défis environnementaux révèlent de plus en plus les limites du modèle économique marchand, et qu'on n'est pas capable de trouver des solutions à l'intérieur de l'économie marchande. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi sur les défis des horizons, pourquoi l'économie marchande ne peut pas être en mesure d'apporter des solutions aux questions environnementales qui mettent en avant ce que les économistes appellent des biens publics mondiaux. Et le marché mondial ne peut pas résoudre la question des biens publics mondiaux. J'expliquerai ça tout à l'heure, mais également les réponses qui sont apportées aujourd'hui sont fragiles, insuffisantes et fragmentées. Les accords internationaux, il y en a de plus en plus, il y en a eu encore hier ou avant-hier, je ne sais pas si vous avez regardé les informations sur la conférence qui a eu lieu, je ne sais plus, en Azerbaïdjan, je crois, ou à Bakou. Ces accords non seulement sont faibles, mais ils sont en permanence remis en question. Les mouvements écologistes eux-mêmes et citoyens ne donnent pas souvent l'envie, à l'ensemble de la société d'adhérer à leur... ils sont de plus en plus victimes d'idéologies politiques dans des systèmes qui ne favorisent pas l'attractivité de leurs idées, et les pressions sur la société civile de plus en plus fortes, et cela s'observe à travers justement de plus en plus d'actions alors extrêmes, violentes, et souvent des rébellions de citoyens face à des situations de blocage administratif, politique des autorités.
Et comment vous voyez effectivement des actions de citoyens parce qu'ils se sentent assez démunis à l'échelle individuelle ou en petits groupes face aux gros lobbies, face aux États qui ne mettent pas en œuvre les politiques adéquates?
Alors, c'est là où aujourd'hui, malheureusement, dans le contexte actuel, on peut être plutôt pessimiste sur la manière dont nos dirigeants, nos décideurs, aussi bien privés que publics à l'échelle mondiale, sont en mesure de réagir face à cette situation, mais la question qui est posée dans cette émission est celle de savoir si une stratégie alternative pouvait être mise en place, et notamment à travers le rôle que pourrait jouer l'économie sociale et solidaire. Ce qui signifie que l'on a bien perçu le diagnostic et que l'on a bien établi le diagnostic sur les causes réelles des échecs de l'économie de marché et de l'économie publique. C'est-à-dire on a deux échecs. Le modèle de gouvernance publique à l'échelle nationale et mondiale qui révèle ses limites et le modèle de fonctionnement d'une économie marchande mondialisée qui révèle également ses limites dans sa capacité à prendre en charge des questions pourtant mondiales sur lesquelles ne fût-ce que les GAFA mais les autres grands groupes d'Asie, de Chine notamment.
Les GAFA, il faut le rappeler, ce sont les accords commerciaux internationaux.
Oui, ben c'est Google, Amazon, Facebook ou maintenant Meta, Microsoft, etc. Il y a l'équivalent de 5 grands groupes chinois qui, ces 10 groupes, si vous voulez, à la fois chinois et américains, dominent l'essentiel des chaînes de valeur à l'échelle planétaire. Et si on rajoute toute la question des flux énergétiques et des lobbies énergétiques sur le pétrole, etc., on a une conjonction de ce qui représente l'économie mondiale à travers les grandes firmes multinationales et sur leur incapacité à prendre collectivement des positions qui pourraient permettre de résoudre un certain nombre de questions liées au réchauffement climatique. Je crois que c'est ça qui est en fait en jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme de coopération à l'intérieur du système marchand des grands groupes. Il est bien plus difficile d'imaginer que la multitude des PME puisse s'entendre sur ces questions. Mais on a une telle concentration du pouvoir et des chaînes de valeur aujourd'hui qu'on peut imaginer des solutions globales portées par les grands groupes. Ce n'est pas le cas, à ma connaissance, ni dans les innovations qui sont produites, ni dans les propositions qui sont faites par ces grands groupes de solutions aux questions environnementales mondiales.
Nous y reviendrons un petit peu plus tard au cours de l'émission. Et maintenant que ce constat est posé, j'aimerais qu'on définisse un peu plus les tragédies qui se profilent et les défis économiques à venir à partir de scénarios que vous avez appelés les tragédies. Alors, la tragédie des communs, la tragédie des horizons, la tragédie des inégalités et de la pauvreté. Est-ce que vous pouvez un petit peu synthétiser tout cela pour nos auditeurs?
Voilà, moi j'ai rajouté à deux tragédies qui ont été déjà mises en avant par beaucoup d'économistes et de sociologues et de politistes, c'est-à-dire la tragédie des communs, qui est un concept développé à l'époque par l'écologiste Gareth Hardin en 1968 et qui a été repris ensuite par d'autres économistes sur la manière dont on peut gérer les biens publics. Et en fait, la tragédie des communs décrit en fait une situation où on a une ressource commune accessible à tous, par exemple les terres, les océans, les forêts, l'air, etc., et qui est surexploitée par des agents économiques, des individus, des ménages, des sociétés, des entreprises, qui cherchent chacune à maximiser leur propre avantage au détriment de la ressource elle-même. Et le fait que ce bien soit commun entraîne sa disparition à terme parce qu'il y a une surexploitation de ce bien et une disparition. Bon, aujourd'hui, c'est l'exemple, et c'est la surpêche par exemple, ou la pollution de l'air, ou la pollution de l'eau, ou la dégradation des écosystèmes au Brésil, dans la forêt amazonienne, ou la perte de biodiversité, ou l'épuisement des sols à travers le surpâturage, etc. Donc il y a maint exemple qui montre que quand on a affaire à des biens communs, c'est ça la tragédie des communs, l'intérêt individuel conduit l'intérêt individuel, c'est-à-dire la maximisation de l'intérêt de chaque agent, et notamment des agents qui ont un intérêt à exploiter ces ressources, les pêcheurs, les sociétés, etc., entraîne la disparition de ce bien commun, et c'est-à-dire la disparition de biens qui sont indispensables à la survie de la planète. Bon, ça c'est la tragédie des communs. La surexploitation des ressources naturelles notamment, et les conflits d'usage qui se posent dans l'utilisation pour les utilisateurs, les communautés, etc.
Et celle des horizons, alors?
Alors, la tragédie des horizons, c'est en fait l'idée que les individus, les entreprises et les gouvernements aussi, je rajoute, hein, malheureusement, hein, c'est quand même... On pensait que les gouvernements ou les États avaient une durée de vie très longue et qu'ils pourraient prendre en compte le long terme. Or, les États ne prennent en compte que le très court terme. L'horizon de vie d'un gouvernement, aujourd'hui en France, il est peut-être d'un an ou deux ans, je ne sais pas, peut-être moins. Donc je vois mal comment aujourd'hui les gouvernements qui représentent les États, dans tous les régimes démocratiques, d'où peut-être, hélas, l'argument qui est avancé par les dictateurs de la planète, c'est de dire qu'eux sont capables de prendre en charge le long terme.
Plus long terme,
mais
oui.
À quel risque? Donc, il y a une difficulté à entrevoir les conséquences à long terme des actions actuelles. Et ça, c'est la tragédie des horizons, c'est-à-dire l'impossibilité non seulement d'évaluer dans le futur ce que peut être la situation, mais aussi d'évaluer les conséquences de ces actes actuels sur, je dirais même pas un futur très lointain, mais un futur à 5 ou 10 ans. On a cette incapacité qui est le fait non seulement de nos représentations du monde, mais aussi le fait que chaque individu pris isolément ne peut pas agir sur des biens qui ont des caractéristiques collectives mondiales.
Oui, et puis pour les politiques, c'est ne pas mettre en œuvre des politiques qui apparaîtraient très, très dures, très restrictives actuellement, alors qu'elles seraient utiles sur le long terme, parce que eux, ils vivent dans le court terme. Et que leur propre survie politique dépend
absolument
aussi de leur popularité.
Absolument.
Et alors la dernière tragédie,
alors,
l'inégalité et la pauvreté,
la
c'est la vôtre.
L'inégalité et la pauvreté, parce que on n'a pas encore pris la mesure de l'impact des questions climatiques et des questions environnementales, de biodiversité, en fait toutes les questions que l'on a mis en avant aujourd'hui, sur la pauvreté et les inégalités croissantes. C'est-à-dire on fait comme si la question des inégalités était seulement un problème de répartition des revenus du fait de la fixation des salaires ou de politiques sociales. Or, il y a de plus en plus, du fait des questions climatiques et du fait, si vous voulez, il y a un phénomène des effets cumulatifs qui s'enchaînent l'un l'autre et qui s'entretiennent l'un l'autre. Et les concentrations des richesses et de pouvoir favorisent souvent les conséquences d'appauvrissement encore plus important des personnes qui se trouvent en situation de fragilité environnementale. C'est-à-dire la fragilité sociale en renforce la fragilité environnementale et la fragilité environnementale entretient à son tour, et voilà, il y a donc à ce moment-là des effets d'exclusion, de marginalisation. L'impact est important parce que derrière la question des inégalités, de la pauvreté, il y a toutes les questions de déclassement des populations et des classes moyennes et toute la question des conséquences sur le populisme et sur les tendances à des régimes de plus en plus autoritaires qui peuvent se profiler derrière ces questions. Donc elles ne sont pas neutres, c'est pas seulement un problème de politique sociale, c'est aussi un problème de savoir ce que nous voulons comme société démocratique demain pour nos enfants et nos petits-enfants.
Merci de cet éclairage et avant de passer aux défis et aux principaux enjeux, nous allons prendre le temps d'une pause musicale avec Trio La Planète.
Accord à côté sur...
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler. Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi, l'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs
sur la même route, forcés de quitter leur terre. Dans la ville folle a changé mon destin d'homme parmi les sommes. Retrouver l'essentiel après des années quand les marchands de sable veulent te faire oublier. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Entre tes mains, le soleil de demain. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton arbre que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain.
Suivons maintenant le thème de notre émission Parlons des droits humains, consacré ce soir au thème de l'économie sociale et solidaire face aux enjeux environnementaux, avec notre invité Albert Marouani, professeur émérite d'économie à l'université Nice-Côte d'Azur et président de la Haute École du Travail et de l'Intervention Sociale. Donc nous avons terminé la première partie de cette émission sur la définition des tragédies qui s'annoncent au regard des bouleversements climatiques qui sont en cours et qui sont inéluctables. Donc tragédie des biens, sur les biens communs, tragédie des horizons, tragédie des inégalités et de la pauvreté. Et on se rend compte à travers ce que vous nous avez dit que ces tragédies s'inscrivent dans le temps parce que les gouvernements, les décideurs, le marché aujourd'hui sont des acteurs à court terme. Alors qu'il faut prendre en compte la durée compte tenu de l'évolution du climat, qui est une évolution, je dirais, à l'orée de la fin du siècle, qui maintenant est fixée, sur laquelle on ne peut plus revenir, compte tenu de tous les déséquilibres, que l'on a engendrés. Donc, pour vous, aujourd'hui, quels sont les principaux enjeux, les urgences à prendre en compte ?
Il me semble que les urgences ont déjà été fixées par les climatologues en termes de conséquences qu'ont aujourd'hui les questions liées à la dégradation de l'environnement, à la biodiversité, au réchauffement climatique, etc. Et on peut très bien imaginer les conséquences sur le plan économique de tous ces phénomènes. La question que vous posez est beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire que quel modèle alternatif pourrait permettre de régler ces questions et d'envisager donc derrière la tragédie des communs, comment prendre en compte les communs ?
Exactement.
D'une manière qui corresponde à ce que vous disiez la dernière fois, un développement durable, c'est-à-dire la capacité à préserver les ressources naturelles pour les générations futures. Ça, c'est un point qui nécessite probablement des travaux en termes d'optimum collectif qui existent. Il y a des économistes qui travaillent sur la question des signaux prix. Quel type de signal prix sur les biens communs on peut mettre en avant tel que les agents puissent internaliser ? Parce que les trois tragédies dont je faisais état tout à l'heure, c'est en fait une seule et même tragédie, celle des externalités.
Est-ce que vous pouvez développer un peu ça ?
C'est-à-dire que vous, aussi bien les questions environnementales que les questions de pauvreté et d'inégalité, que les questions qui touchent aux politiques publiques génèrent des externalités, c'est-à-dire des effets. Mon action individuelle peut avoir une externalité positive ou négative sur le reste. Si je pollue la planète ou si je jette des déchets dans l'océan ou dans la mer en jetant mes canettes de bière ou je pollue et j'exerce un effet, une externalité négative sur la planète sans avoir à en payer le prix. Donc ce que les économistes savent faire, c'est de dire que si on mettait un prix derrière la pollution, à ce moment-là, les agents intégreraient cette externalité comme un élément de leur comportement. Et si le prix est suffisamment dissuasif, ils ne pollueraient pas. Les solutions de signaux prix, pour l'instant, elles ne passent pas parce qu'elles sont toujours trop coûteuses dans le court terme. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'augmentais à un niveau trop élevé le prix du pétrole, de façon à ce qu'il serve de dissuasion à son usage, je bloque toute l'économie. Donc c'est la question de la transition, c'est-à-dire de trouver des voies de passage progressives qui permettent progressivement de changer de modèle de consommation, de changer de modèle de production, d'où la question que nous posons depuis la dernière émission, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer un modèle d'économie sociale et solidaire qui s'imposerait non pas comme modèle de substitution, mais un modèle qui accompagnerait aussi l'évolution du monde des entreprises privées, c'est-à-dire qui ferait en sorte que les valeurs portées, les modèles d'innovation sociale, les modèles d'intégration des externalités dans les comportements, parce qu'on peut internaliser les externalités, soit à travers les prix, soit à travers ses comportements. Je m'ajuste à travers le prix ou à travers le comportement. Et là aussi, l'économie sociale et solidaire peut être porteuse de comportements éthiques, de comportements de justice, de comportements, des valeurs que nous avons signalées tout à l'heure, et qui pourrait justement imprégner l'ensemble des comportements de la société et associer à des innovations à la fois dans le domaine de la production, dans le domaine de la distribution, dans le domaine des modes de consommation, etc., des innovations globales à l'échelle planétaire qui pourraient progressivement accompagner ce que l'on appelle la transition.
Alors justement, pour accompagner la transition et voir de quelle manière on peut l'accompagner, il faut d'abord, poser le problème sur la table et identifier les défis finalement auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en termes de financement, de réglementation, de concurrence, etc., etc. Quels sont vraiment les défis économiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui?
Bon, j'aurais du mal à vous proposer ici, si j'avais la solution miracle, je pense que je serais prix Nobel. Non, en réalité, je vois un certain nombre de pistes sur lesquelles il faudrait quand même que l'économie sociale et solidaire mette l'accent. Vous avez souligné dans votre question le faire face au greenwashing et au social washing. Le greenwashing, d'une certaine manière, il y a tout un ensemble de savants, de scientifiques dans toutes les disciplines qui sont capables d'apporter des arguments. Et je pense que de plus en plus, il y a de moins en moins de personnes qui puissent remettre en question les impacts environnementaux que l'on souligne. En revanche, le social washing, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il est associé à des idées, des manières de penser qui renvoient à des morales ou à l'idée que les pauvres, ils n'ont que ce qu'ils méritent et le social, c'est en fait le fait de populations fainéantes, incapables de travailler, etc. etc. Bon. Donc, je pense que l'économie sociale et solidaire, par les valeurs qu'elle porte et par le modèle de management et de fonctionnement qu'elle pourrait mettre en avant, devrait, ou devrait en tout cas mettre l'accent sur les valeurs de transparence et de traçabilité. Je crois que, par exemple, cette valeur est très demandée par les gens. D'où ça vient, d'où viennent les produits. Donc déjà, si on pouvait mettre en avant cette valeur, ça pourrait être bien. Développer la question, assurer une confiance, parce que la notion de confiance est capitale dans l'économie, pas seulement sur la monnaie, mais dans toutes les relations sociales et les relations économiques. Donc promouvoir les labels et les certifications fiables, c'est aussi un enjeu. Ça commence à se faire, il y a des labels comme B Corp, comme ESUS, comme RSE, etc., qui peuvent renforcer la question de la transparence et de la traçabilité. Il faut communiquer davantage sur les valeurs et les résultats concrets de l'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas assez de communication sur ce qui est fait.
De réglementation, ça, ou
non,
une question de médias?
Non, je crois que le milieu n'est pas porté à communiquer sur ce qu'il fait.
Et pour quelle raison?
C'est un peu le mystère pour moi. J'ai découvert, par exemple, que le milieu des travailleurs sociaux cultivait aussi un entre-soi peu ouvert sur... Alors, est-ce que c'est dû à des préjugés ou à des idées reçues que se font les autres sur ce secteur qui fait qu'on n'ose pas affirmer ce que l'on fait? Bon, enfin, toujours est-il que la question de la communication du secteur de l'environnement social et solidaire se pose.
C'est vrai que le problème de la visibilité, donc de la reconnaissance, finalement, c'est
absolument
ce que vous abordez, est extrêmement important, parce qu'à partir du moment où le grand public n'est pas au courant effectivement des possibilités qu'offre l'économie sociale et solidaire, il y a très peu de possibilités pour s'ouvrir et pour développer le domaine.
Voilà.
Donc ça, c'est un aspect effectivement assez important.
Exactement. Et tout à l'heure, en prenant un café, on était en train de parler de séries télévisées. À ma connaissance, il n'y a pas de séries télévisées qui portent sur des héros qui seraient des héros de l'économie sociale et solidaire. Hein, vous avez beaucoup de séries. Donc là, il y a vraiment un travail de communication et d'information à faire sur le côté positif et porteur d'innovation aussi, hein, d'où l'intérêt de la digitalisation, de l'intégration de la haute technologie au fonctionnement de l'économie sociale et solidaire. Il ne faudrait pas que ce soit le secteur du pauvre, de l'artisanat, de ceux qui font simplement des activités peu riches en capital technique ou en technologie.
Rejoint le domaine de l'innovation que nous avions évoqué le mois dernier, qui ne doit pas être seulement l'apanage de l'économie marchande, mais également de l'économie sociale et solidaire.
Tout à fait.
Qu'est-ce que cette économie sociale et solidaire propose dans ce sens-là?
Eh bien, il faudrait que ça rentre dans le domaine des champs de recherche académiques. Il y a peu de travaux encore sur l'économie sociale et solidaire, autant du point de vue microéconomique, en termes de management, par exemple, de modèle managérial. À ma connaissance, on est même sur la RSE, responsabilité sociale et environnementale, vous verrez que la responsabilité sociale, c'est presque un problème de ressources humaines. C'est de gestion des ressources humaines. C'est pas la responsabilité sociétale des entreprises. C'est l'entreprise ne se pose pas encore la question, ça va venir, de savoir quel est son impact sur la société. C'est ça la responsabilité sociale. Ça devrait être ça. Et là, l'économie sociale et solidaire apporte des réponses, peut permettre à l'entreprise marchande de se modifier pour intégrer ce modèle de prise en charge du sociétal et non pas de la gestion des ressources humaines en termes d'ergologie ou d'ergonomie, etc. La deuxième question, enfin un autre aspect du problème, c'est comment développer une coopération à l'échelle européenne et internationale, non seulement pour harmoniser les normes, les labels de l'économie sociale et solidaire, non seulement pour créer, ce qui est important, un cadre réglementaire, parce que souvent la réglementation est compliquée, ça ne favorise pas assez l'émergence de ce secteur. Il faut une coopération dans ce domaine, à la fois des réglementations, des normes, des labels, etc. Mais il faut surtout des alliances internationales de l'ESS.
Et comment promouvoir
et
ça,
voilà,
justement.
C'est toute la question. Il y a des choses aujourd'hui, par exemple, on a le réseau comme Global Social Economy Forum ou l'Alliance Coopérative Internationale qui sont des organisations peu connues hein, de l'ESS dans différents pays, mais qui mériteraient d'être davantage mises en avant, non seulement pour promouvoir le secteur, mais pour initier aussi... Des recherches à un niveau international avancé sur ces questions, y compris en utilisant des modèles que l'on n'utilise plus, qui sont des modèles de planification dans le long terme. Si le marché ne coordonne pas, le marché coordonne en général, hein, c'est la main magique, la main invisible
tout.
Du marché qui régule. Mais c'est vrai, ça marche. C'est-à-dire que les gens prennent des décisions et ce n'est pas tout à fait le chaos. Ça l'est parfois, mais là on atteint le chaos.
Oui, voilà, exactement.
Là on atteint le chaos. On atteint le chaos. Donc il faut trouver des modes de régulation alternatifs. Et des modes de régulation alternatifs qui soient décentralisés. Parce qu'on peut imaginer un mode de régulation d'un petit père des peuples, d'un dictateur qui viendrait dicter d'en haut. C'est le modèle que propose la Chine hein, comme modèle de régulation. Mais qui est au détriment des libertés. Qui rêve aujourd'hui de est-ce qu'il y a l'équivalent du rêve américain pour la Chine? Non, il n'y a pas encore.
Et justement, donc, vous parlez de coopération internationale, déjà nationale et également internationale. Comment effectivement promouvoir ces coopérations? Comment les mettre en avant, les pousser?
Alors, il faut probablement qu'à ce niveau-là, les organisations... mondiales qui existent puissent se saisir davantage de ces questions à l'échelle mondiale que d'être en permanence. Peut-être que les questions environnementales devraient être davantage aussi couplées sur les questions de l'environnement. Parce que si on est d'accord sur le fait qu'il faut rechercher des solutions alternatives qui ne soient pas des solutions d'économie centralisée planificatrice, mais qui permettent néanmoins des modèles de planification décentralisée pour réguler sur le long terme, parce qu'il faut anticiper, il faut prévoir. Donc toutes ces questions qui nécessitent des modèles d'organisation de la production, de la consommation, etc., tout ce dont on a parlé, doit être en quelque sorte un moyen... parmi d'autres, certes, il peut y avoir d'autres moyens sur le plan des innovations technologiques, je ne sais pas, mais qui peut être un moyen de résoudre la question des trois tragédies dont je parlais, des communs, de la planète, etc., des horizons.
Alors,
si on intègre ça, ça veut dire qu'effectivement, dans la manifestation qu'on va avoir sur, par exemple, à Nice, pour la protection des océans, on est un volet sur quel modèle de gestion des pêcheries on peut avoir qui ne soit pas un modèle de gestion des pêcheries marchands.
D'accord.
Ce n'est pas le cas.
Alors, qui doit porter ce genre d'initiative? Parce qu'on ne va pas compter sur les grandes multinationales pour développer ce genre de coopération. Le rôle des États devrait être là, mais manifestement ce n'est pas le cas, puisque eux fonctionnent à très court terme. Est-ce que les ONG, les mouvements citoyens
Pour l'instant, on n'a pas d'autre solution qu'un soutien accru des politiques publiques vers l'ESS. Je ne vois pas, en dehors des subventions, des aides spécifiques, de la fiscalité, des commandes publiques responsables, de l'encouragement des financements. Si vous voulez, toute la panoplie des aides publiques, elle existe. Il faudrait la renforcer, il faudrait la cibler, il faudrait la compléter par une mobilisation de la société civile, des consommateurs notamment, et il faudrait développer tout le système éducatif d'une autre manière, hein, pas seulement pour dire aux enfants qu'il faut ramasser les plastiques la plage, mais ça sert à quoi? Derrière ça, qu'est-ce qu'on fait, etc.
Vous venez de mentionner un aspect important, c'est le financement. Effectivement, des solutions qui peuvent être mises en œuvre. Qui est-ce qui doit financer ça, justement?
Alors, je crois que dans ce domaine, on n'a pas exploré toute la diversité des innovations financières qui existent. Vous voyez, la globalisation, la mondialisation, ça a été, à travers la mondialisation de l'industrie, des chaînes de valeur, etc., ça a été la mondialisation financière. Et ça, on l'a vu avec la crise, avec les crises financières. La dernière crise des subprimes de 2008-2009 montre à quel point le monde de la finance, et on l'a vu à travers les politiques monétaires, on a injecté dans le système monétaire plus de 30 000 milliards de dollars de création monétaire avec la crise de la Covid.
Oui.
On a été capable de créer 30 000 milliards de dollars de monnaie.
À partir de rien, juste basé sur la confiance.
C'est de la création monétaire pure, voilà. C'est-à-dire que les banques centrales ont fait ce que des politiques monétaires dites de quantitative easing, c'est-à-dire de politiques monétaires accommodantes, où elles ont racheté des titres de la dette publique des États, qui ont fait fonctionner leur économie à travers cet endettement public, ce qu'on appelle la dette publique. Mais la monnaie, l'endettement de l'État, dans un modèle dans lequel c'est la banque centrale qui rachète la dette publique, vous pouvez le reporter ad vitam aeternam, hein,
exactement.
Si elle garde. Et donc vous pouvez financer aussi des activités qui soient très fortement porteuses d'incitation. Donc les innovations financières, il faudrait tout un cours sur la sophistication des instruments financiers qui existent actuellement et que l'on pourrait imaginer pour être mis au service de l'ESS. Ou en tout cas, je ne crois pas que la question financière, si on regarde la question financière seulement du point de vue des subventions publiques, on va tout de suite être bloqué par la dette publique et l'équilibre budgétaire, notamment en France. Donc il faut regarder le problème en termes de contribution citoyenne. L'épargne en France est importante. Comment cette épargne, s'il y avait des politiques de sensibilisation des citoyens avec la visibilité et la transparence sur le retour social sur investissement et pas le retour financier sur investissement, à ce moment-là, peut-être que cette épargne privée pourrait s'investir moyennant un certain nombre de garanties que donne la finance, hein, sur les risques de défaut, sur les risques de contrepartie, etc. Mais la finance sait faire là-dessus, on sait faire ça là-dessus. Donc il pourrait y avoir des choses à ce niveau qui puissent justement sortir de cette situation de blocage.
Il y a un dernier point que j'aimerais qu'on aborde parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, c'est que l'économie sociale et solidaire repose beaucoup sur le bénévolat et sur, je dirais, des modèles associatifs non lucratifs. Qu'est-ce qu'il en est actuellement du bénévolat? Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui reposent sur un bénévolat de personnes relativement âgées. Ça diminue en France et c'est un problème actuellement.
Alors,
donc, qu'est-ce que propose effectivement l'économie sociale et solidaire par rapport à ça?
Alors le bénévolat est important dans l'économie sociale et solidaire. Hein. C'est plusieurs dizaines de millions de personnes, je crois que c'est... En France, ça doit être autour de 22 ou 23 millions de personnes. 20, hein, je crois.
22 millions de personnes, effectivement.
C'est ça.
Il y a un vieillissement des bénévoles.
Il y a un vieillissement. Je ne crois pas que l'allongement de l'âge de la retraite va favoriser le bénévolat. Si vous voulez, en revanche, il y a une vraie question, probablement, c'est d'intégrer dans la comptabilité sociale et la comptabilité nationale, telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est-à-dire quand on calcule le PNB ou le PIB, le produit intérieur brut d'une nation, je pense que les activités bénévoles porteuses de valeurs sociales doivent être évaluées pour leur impact sociétal.
D'accord.
Et trouver des artifices comptables pour l'intégrer comme productrice de valeur. Parce que je ne vois pas quelle est la différence qui existe entre... Enfin, je vois bien la différence entre un retraité qui contribue par des cours de soutien scolaire, par des assistances dans des bibliothèques, par la contribution à la formation au décrochage scolaire, etc., etc., ou par d'autres contributions sur des activités de sportives ou culturelles et autres, et la personne qui, dans la vie active, contribue à la production par la production de services ou d'objets qui ont une désutilité sociale manifeste. Ben écoutez, voilà.
Nous allons en rester là justement pour l'aspect bénévole.
Et nous allons terminer
cette deuxième partie en écoutant une troisième pause musicale. Chimène Badi qui chante Le jour d'après.
On portera nos regrets si nous survivons peut-être le souvenir dévasté de notre ancienne planète. On emportera nos remords de ce temps où l'on savait si on te d'avoir tort d'oublier que l'on pouvait. J'ai rêvé la douceur de certains soirs. J'ai rêvé surtout qu'il n'était pas
de l'émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir au thème de l'économie sociale et solidaire face aux enjeux climatiques et environnementaux. Monsieur Albert Marouani, notre invité, je vous laisse conclure. Quel est le message que vous souhaitez faire passer auprès de nos auditeurs?
C'est toujours difficile de faire passer un seul et unique message. Mais ce que je dirais peut-être, c'est qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'économie sociale et solidaire dispose de nombreux atouts que l'on a évoqués au cours des deux dernières émissions, de la précédente émission et d'aujourd'hui. Et donc, elle est en mesure, par ses valeurs d'authenticité, de transparence, son modèle de gouvernance démocratique, etc., non seulement de renforcer son poids dans l'économie, parce qu'il y a des expériences peu connues, mais qui sont extrêmement diverses et qui montrent que dans tous les domaines, l'économie sociale et solidaire est en mesure d'être tout à fait rentable au sens marchand, mais aussi, surtout, ce qui est important, porteuse de valeur au niveau de la société et rentable d'un point de vue social. Donc ce que je dirais, c'est que si aujourd'hui on pouvait avoir au niveau européen et international des avancées fortes sur la transparence, sur le soutien à la recherche, sur le soutien à l'éducation, sur la valorisation de l'ESS comme modèle de référence en matière de responsabilité, de durabilité, en matière de transparence, etc. Je pense que ce modèle pourrait être porté par ces instances, nationale, européenne et internationale pour encourager les entreprises traditionnelles à s'engager elles-mêmes dans des pratiques plus authentiques, plus respectueuses de l'environnement, plus inclusives et je dirais plus porteuses d'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants.
Merci beaucoup pour cette conclusion très positive. Donc, tout le monde peut réécouter cette émission en la téléchargeant sur le site d'Agora Côte d'Azur. Elle sera par ailleurs rediffusée lundi 6 janvier prochain à 21h. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission Parlons des droits humains qui aura lieu le lundi 20 janvier 2025. À bientôt, bonne soirée à tous et à l'année prochaine.